conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Bonjour chers auditeurs, je reçois aujourd'hui en cette nouvelle année et encore une fois bonne année 2020, je reçois Andrea Balestrieri, bonjour.
Bonjour.
Donc je le reçois pour la deuxième fois puisque la singularité de cet architecte c'est qu'il fait aussi, ou en tout cas participe à des opérations de promotion. Alors c'est vrai que pendant des années on a considéré qu'il y avait deux métiers, architecte, promoteur, promoteur, architecte, c'était deux mondes complètement différents. Depuis un certain nombre d'années, des architectes s'essayent à la promotion. Qu'est-ce qui fait qu'un architecte décide d'intervenir dans une opération de promotion ?
Bonjour à tout le monde déjà. C'est avant tout une histoire d'homme, je pense. C'est
et de femmes aussi.
Quand on dit histoire d'homme, c'est les relations humaines. C'est les relations humaines avant tout.
Oui,
Je fais partie, on va dire, de l'équipe fondatrice de Promège, promotion. C'est une structure de promotion classique avec quelques spécificités qui a été montée il y a quelques années par Jérôme Coppolata, Clément Guimont et moi-même.
Un qui est issu de chez Vinci Immobilier.
Un qui est issu.
Un autre de chez Kaufmann. Hein.
Exactement. Qui sont connus chez Vinci aussi, parce que oui, Clément, il a travaillé, il était passé chez Vinci. C'est là où je l'ai connu. Et Jérôme, il est architecte de formation. Mm-hmm. Et il était avec moi à l'agence pendant quelques temps, avant de passer de l'autre côté de la force obscure, comme on dit. Et du coup, dans le temps, les deux qui sont devenus copains, on est devenus tous amis et en fait ils avaient cette envie de créer leur structure et de mener un peu leur projet.
Et alors du coup vous êtes intervenu en tant qu'architecte, en tant que intervenant financier, quel a été le déclic qui a fait que vous vous êtes dit allez on se lance à trois pour faire cette nouvelle marque Promège, hein.
Au début comme architecte, tant qu'architecte c'est mon métier de base, c'est mon activité principale, on va dire. Mais en fait, Promège, c'est un peu une structure atypique. C'est deux jeunes, parce que c'est des gens qui ont, quand on a commencé, ils avaient moins de 40 ans, sans fonds d'investissement derrière, sans une assise financière importante, comme la plupart des promoteurs qui s'éclosent
aujourd'hui. Juste avec de l'envie, quoi.
Juste avec de l'envie. De l'envie et des capacités. Mm-hmm. Et j'ai cru dans ce qu'ils voulaient faire. Et du coup, moi, j'avais déjà ma structure qui, elle, était déjà bien formée, plutôt solide. Et au début, c'était on va dire, un appui logistique et
c'est-à-dire partager les bureaux, la secrétaire,
partager les bureaux,
faire en sorte qu'ils se sentent pas tout seuls dans une tour devant l'ordinateur, quoi.
Exactement, mais aussi, vous savez, quand on commence une opération, on a des études de faisabilité, mais après les études de faisabilité, on a des permis à déposer, on a toute une série de frais à sortir. Que quand on n'a pas forcément des gros fonds derrière, sont pas faciles.
Donc ça veut dire que vous avez fait le pari de travailler, on va dire sans honoraire, dans une avant que le chantier commence, avant que les lots soient vendus.
Pas sans honoraire.
C'est-à-dire d'être à risque.
Mais pas sans honoraire, mais avec certains risques maîtrisés. Oui, ça j'ai fait le pari parce que je croyais dans le projet et j'y crois toujours. Et je pense que ça avance plutôt bien. Mm-hmm. Donc c'était un peu un pari pour tout le monde.
Mais disons que c'était un pari en tant qu'architecte, pas vraiment en tant que promoteur.
Hein. Quand on est aussi dans la partie promotion, on apporte aussi sa pierre à l'édifice. Ça veut dire que le travail sur les budgets, le travail sur la charge foncière, sur quel coût va avoir le bâtiment, quel détail on va faire, quelle est l'envie la typologie par exemple de logement qu'on va avoir. Tout ça, c'est des choses.
Ça veut dire que c'est vraiment un produit qui est un peu plus à la carte. C'est-à-dire que la relation avec le client Elle est différente parce que l'architecte est autour de la table et quelque part peut parler direct B2B avec l'acquéreur.
Bah, sur les premières opérations, au moins, ça a été comme ça. On a eu même les acquéreurs qui venaient dans nos bureaux pour choisir les matériaux avec nous, avec le promoteur. C'était pas eux dans leur coin et nous dans le nôtre. Après, ça dépend aussi des typologies. Projet de Promège, c'est des projets Paris première couronne, c'est vraiment du haut de gamme. C'est donc offrir aussi la présence d'un architecte lors de certains choix, c'est quelque chose.
Ça fait chic. C'est comme le retail de luxe, quoi.
Voilà, c'est ça. Et de l'autre côté, côté architecte, ça me permet aussi, ça nous permet aussi de développer des projets très intéressants, des petites pépites qui ont vraiment une architecture contemporaine. J'ai totale liberté. Ça aussi, c'est...
Paris Intramuros, on n'a pas totale liberté, si je puis me permettre. On a quand même au-dessus de soi la ville de Paris, les ABF et autres qui donnent comment ?
C'est un dialogue.
Oui, voilà, bien sûr. Mais enfin, on n'a pas du tout le libre choix.
Non, on n'a pas du tout le libre choix, mais... Alors
justement, comment on fait dans Paris Intramuros pour pouvoir quelque part à la fois garder, je dirais, sa singularité et puis rentrer dans les fourches codines de la réglementation française, hein, qui est peut-être pire que la réglementation italienne.
Je ne rentre pas dans le débat de la réglementation parce que c'est vraiment... je trouve que parfois c'est vraiment contradictoire dans tous les sens. Mais sur Paris, moi je pense qu'il y a c'est pas si compliqué que ça. Je veux dire, on voit toutes les réalisations qu'on a aujourd'hui. On a quand même une certaine liberté.
Oui, on a su se libérer de l'Haussmannien.
Exactement, on a su se libérer de l'Haussmannien, même s'il y en a encore qui le font, parce que c'est un choix. C'est bien un sûr. Choix du promoteur. Dans notre cas, le Promège me laisse la totale liberté de m'exprimer, que ce soit Paris, que ce soit à Pantin ou Première Couronne. Et de l'autre côté, on a des produits de qualité.
Alors justement, quel est comment vous voyez l'évolution de Promège et l'évolution de vous, de votre travail avec cette nouvelle société de promotion dans les 10 ans à venir ? Quel est le produit, ou en tout cas, quelle est la manière dont on peut se dire que le logement va évoluer dans les 10 ans ? Parce que les clients sont très différents.
Alors, pour ce qui est...
Ils ne sont pas nécessairement acquéreurs, hein.
Non, les clients ne sont pas nécessairement acquéreurs, sauf que quand on est dans des niches de marché comme Paris, Intramuros ou Première Couronne, on a des typologies d'acquéreurs qui sont quand même différents. On n'est pas en deuxième couronne,
Le primo-accédant.
Exactement, ce n'est pas nécessairement le primo-accédant, ce n'est pas nécessairement des logements très standardisés. On a vu sur une opération que le logement le plus prisé, c'était le dernier étage à plus d'un million de coûts et pas le...
Mais pas tout le monde peut être au dernier étage dans un immeuble.
Non, mais
c'est compliqué de faire que des derniers étages avec terrasse, avec vue sur tout Paris.
Exactement, mais c'était bon, l'appartement qui était le plus recherché.
Mais bon.
C'était l'appartement le plus recherché. Oui. C'était donc.
Alors justement, comment on fait dans un immeuble avec ce type de clients et avec ces demandes qui sont extrêmement particulières, hein, et j'entends ce que vous dites parce que effectivement, on le rencontre souvent, pour faire en sorte qu'une fois que les logements de dernier étage avec terrasse et vue sur tout Paris sont vendus, pour donner de la qualité, du sens et de la singularité aux étages en dessous, y compris le premier étage.
Ah, ça, c'est pas toujours simple. Hein. C'est pas toujours simple et on n'y arrive pas toujours. C'est, ça, il faut dire. Mais sur Paris, je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème de vente d'appartements. C'est juste une question de prix et de temps. Le bon prix se vend. L'appartement qui est trop cher ne trouvera pas à quelle heure tout de suite. Et du coup,
Est-ce qu'il y a vraiment du trop cher à Paris aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une limite à ne pas dépasser ?
Quand on fait du neuf, le trop cher, c'est par rapport à l'ancien. En fait, justement, sur ce bâtiment-là dont on parlait de la rue Amelot, on a vu que les...
Très beau bâtiment, d'ailleurs, publié, sublime. Un petit côté, un tout petit côté art déco.
Exactement.
Voilà. Très, très classe.
Et on a vu que les appartements plus compliqués avant, c'était les appartements de taille moyenne, parce que en fait, le prix d'un appartement de taille moyenne, par rapport à la même surface d'un ancien, d'un haussmannien et d'un haussmannien, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Donc les acquéreurs ont plus de choix. Quand on est sur des appartements un peu atypiques et qui change un peu de l'ordinaire, on trouve toujours quelqu'un qui a envie d'investir cet appartement.
Alors demain, il y a le logement, donc il y a le logement qui s'adapte au client. Il y a le client qui devient beaucoup plus proactif dans l'acquisition de ce logement et qui demande du sur-mesure, y compris d'ailleurs en voulant ne pas être dans les règles, y compris les règles PMR. Donc ça, c'est pas toujours facile de faire des TMA qui ne soient pas dans la ligne. Comment fait-on pour regarder le logement modulaire qui rentre de plus en plus maintenant sur le marché comme étant quelque chose qui peut être élégant, différent Comment on fait du modulaire et en même temps
Sincèrement, je ne veux pas dire que j'y crois pas trop dans le logement modulaire, mais c'est très très compliqué pour moi.
Aujourd'hui, c'est-à-dire on a des
règles.
On revient sur l'histoire
des règles. Ouais. C'est pas pour moi en tant qu'architecte. C'est vraiment une histoire des règles. Aujourd'hui, la réglementation française, elle est vraiment très 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 contraignante. La nouvelle loi sur l'accessibilité PMR nous aide un tout petit peu pour avoir des logements un peu plus qualitatifs.
Et pas des salles de bain de 5 mètres carrés.
Exactement. Mais on est très contrainte par la réglementation. Et ça devient de pire en pire.
Oui, donc vous n'y croyez pas trop.
Non.
Bon, alors, moi j'ai entendu...
Je préfère dire à la carte. Je préfère dire à la carte que modulaire. Ça veut dire modulaire, pour moi, c'est l'évolutivité du logement. Et un logement évolutif à l'intérieur d'un bâtiment... C'est pas si simple que ça.
Donc ça veut dire à la carte, ça veut dire que demain, les acquéreurs qui veulent acheter chez Promège avec Andrea comme architecte seront à quelle porte taper et en ayant le logement qui leur convient.
Ben, j'espère.
Eh bien écoutez, merci Andrea, merci pour cette interview. J'étais ravie de pouvoir vous recevoir au micro de Radio Immo. Et merci chers auditeurs, au revoir, à bientôt.
Au revoir.
Conversation urbaine et architecturale. Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-immo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.